Merci d'écouter RFI. Il est 20h en temps universel, 23h à Gaza et Tel Aviv.
Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir avec Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Clémentine. Bonsoir à toutes et à tous.
Une nouvelle poussée de violence au Proche-Orient. Israël a lancé cet après-midi une opération militaire dans la bande de Gaza. Plusieurs tirs de roquettes sont signalés ce soir en direction de l'État hébreu.
La Russie et la Turquie renforcent leur coopération. Les dirigeants des deux pays se sont retrouvés aujourd'hui à Sotchi. En revanche, la France n'est pas un pays ami. C'est le porte-parole de la diplomatie russe qui l'affirme. Nous l'entendrons dans ce journal.
En Inde, les arrestations se multiplient au sein du principal parti d'opposition. Ses membres dénoncent une répression politique de la part du pouvoir.
Et puis Clémentine, on terminera ce journal en musique avec le nouvel album du collectif à succès Cocoroco.
Le journal en français facile.
Plus de 100 roquettes ont été tirées ce soir sur la bande de la bande de Gaza vers Israël.
Oui, il s'agit de tirs de représailles, c'est-à-dire de tirs de vengeance, après les frappes meurtrières menées par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Ces frappes, elles visaient le djihad islamique. Selon l'ONU, au moins 10 Palestiniens ont été tués. On en parle avec vous, Guilhem Delteil. Bonsoir.
Bonsoir, Clémentine.
Alors, cette opération de l'État hébreu dans la bande de Gaza, elle s'appelle Aube naissante. Et elle a été lancée cet après-midi, alors qu'une médiation égyptienne était en cours.
Oui, après quelques jours d'une tension sans violence, les armes ont finalement été utilisées ce vendredi. Dans l'après-midi, l'armée israélienne a bombardé un quartier résidentiel dans le centre de la ville de Gaza. Pour l'armée israélienne, il s'agissait de frappes préventives, c'est-à-dire avant une attaque sur son territoire. Israël affirme avoir tué 15 combattants du djihad islamique. Le ministère de la Santé à Gaza évoque, lui, 10 victimes. Des civils, assure-t-il, dont une petite fille de 5 ans. Mais l'un des chefs du djihad islamique a aussi été tué, Taysir el-Jabari, dont les funérailles dans la soirée ont attiré des centaines de personnes. Quelques heures plus tard, des roquettes ont été tirées vers le territoire israélien. Vous le disiez, plus de 100 selon le djihad islamique. Alors, signe que les combats pourraient se poursuivre, l'armée israélienne a déjà donné un nom à son opération, Aube naissante, vous l'évoquiez. Et le djihad islamique affirme, lui, que les tirs de roquettes étaient une première réponse uniquement.
Merci beaucoup Guilhem Delteil, journaliste au service international de RFI.
Dans l'actualité également, Clémentine, la Russie qui accuse l'Ukraine de terrorisme nucléaire.
Moscou rejette toute responsabilité dans les frappes menées près d'un réacteur nucléaire de Zaporijjia en Ukraine. L'armée russe accuse le régime du président ukrainien Volodymyr Zelensky d'en être responsable. Le dirigeant ukrainien estime de son côté que la Russie doit porter la responsabilité de cet acte de terreur.
Et dans ce contexte, la Russie resserre ses liens avec la Turquie.
Moscou et Ankara vont notamment renforcer leur coopération énergétique et économique. C'est ce qui ressort de la rencontre entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan. Les deux dirigeants se sont retrouvés aujourd'hui à Sotchi, en Russie, sur les rives de la mer Noire. Correspondance à Moscou, Danissa El-Jabri.
Au début de la rencontre, Vladimir Poutine avait déjà souligné ces données. Le chiffre d'affaires commercial russo-turc a augmenté de 57% en 2021. Il a doublé entre janvier et mai cette année. Il pourrait bien s'envoler les prochains mois. Transport, industrie, agriculture, tourisme, haute technologie, construction. Des accords ont été trouvés dans presque tous les secteurs, annonce de la Russie. Point majeur pour Moscou. Et là-dessus, on attend encore des précisions concrètes dans les secteurs aussi de la finance et de la banque, dans l'énergie aussi. La Turquie accepte ainsi le paiement du gaz russe en rouble. Vladimir Poutine avait aussi promis de n'éluder aucune des questions liées à la Syrie, dossier majeur pour Recep Tayyip Erdogan qui cherche depuis des mois à lancer une opération militaire dans le nord de la Syrie. Les deux dirigeants ont sur ce dossier signé une déclaration conjointe. Elle reprend dans une même phrase les deux priorités des deux parties. D'un côté, la Russie et la Turquie se disent attachées à l'unité politique et à l'intégrité territoriale de la Syrie. De l'autre, elle réaffirme, je cite, « leur détermination à coordonner étroitement leurs efforts pour lutter contre les organisations terroristes ». Anis El Jabri, Moscou, RFI.
Et on en vient à cette question, Clémentine. Les présidents russes et français sont-ils en froid ?
Eh bien, ça fait en tout cas 2 mois que Vladimir Poutine et Emmanuel Macron n'ont pas eu d'entretien téléphonique. Et voici pourquoi, selon Moscou, la France est tout simplement un pays inamical avec lequel les discussions ne sont actuellement pas nécessaires. C'est une déclaration du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.
Eh bien, tout d'abord, la France est un État inamical au regard des actions qu'elle prend concernant notre pays. Ils ne s'appellent pas parce qu'ils estiment que le moment n'est pas venu et qu'actuellement ce n'est simplement pas nécessaire. Si la nécessité se fait sentir, ils peuvent s'appeler à tout moment.
En Inde, à présent, les arrestations d'opposants se multiplient. Le principal parti d'opposition, le Congrès, est visé par une large enquête. Elle porte sur de supposées transactions illégales. Mais les élus de l'opposition y voient le signe d'une répression politique. Ils accusent le parti nationaliste au pouvoir d'en être responsable. À New Delhi, Sébastien Farsi.
Les deux dirigeants historiques du parti du Congrès, Rahul Gandhi et sa mère Sonia, ont été interrogés pendant des jours par l'agence de répression des fraudes et des perquisitions sont menées dans une dizaine de locaux du Congrès. Ceci dans une enquête sur des transactions douteuses de plusieurs millions d'euros. Cette même agence fédérale très puissante a aussi récemment placé en détention provisoire un député fédéral d'opposition et 2 ministres régionaux de Delhi et Bombay, privant ces partis de membres essentiels. Les officiers démentent toute influence politique, mais l'opposition condamne le fait qu'aucun membre du parti au pouvoir n'est jamais visé par ce genre d'enquête et que les politiciens cessent même d'être inquiétés dès qu'ils rejoignent cette formation du Premier ministre. Pour le député du Congrès Rahul Gandhi, l'opposition est muselée. What we are witnessing
is the death. Nous assistons à la mort de la démocratie en Inde. Tout ce que le pays a construit depuis près d'un siècle est en train d'être détruit. À la place s'élève une dictature dans laquelle toute personne qui s'oppose au pouvoir est attaquée et emprisonnée.
Le parti du BJP rejette ces accusations et affirme que le parti du Congrès essaye seulement d'empêcher que cette enquête embarrassante ne soit menée jusqu'au bout. Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
Allez, un peu de musique pour finir. Le collectif britannique Cocoroco présentait aujourd'hui son tout dernier album.
Oui, un album intitulé « Could We Be More ?» Mais le collectif aux influences africaines n'en est pas à son coup d'essai. Il recueille déjà 60 millions d'écoutes sur la plateforme Spotify et tous ses singles ont déjà remporté un vif succès. Marine Salaville.
C'est de la musique à écouter autour d'un verre entre amis, en début de soirée ou encore pour se détendre. Quelques notes aux sonorités funk, à la guitare électrique, des percussions, mais surtout des cuivres, beaucoup de cuivres. C'est la marque de Cocoroco. D'ailleurs, la leader du groupe, Sheila Morris Gray, est une trompettiste renommée. Elle est aussi connue sous le pseudo Mrs. Morris. Malgré cette constante cuivrée, les morceaux se suivent mais ne se ressemblent pas. La plupart ont un rythme tranquille, d'autres sont plus enlevés, comme We Give Thanks que le groupe a pensé spécialement pour la scène. Pour cet album, Cocoroco s'inspire de ses origines africaines et caribéennes, 15 pistes inspirantes avec quelques interludes. Oh, how free we were in those good times. Oh, how I remember the soulful endless nights. When we would Voilà, c'était le nouvel album de Cocoroco sur RFI et c'est ainsi que se referme ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi et très belle soirée sur RFI.